Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben, salut Brice, comment vas-tu déjà?
Bah, ça va très bien, merci Bart.
Bon, merci d'être venu à moi. Je suis très content de pouvoir t'accueillir ici parce qu'en plus, c'est un lieu dans lequel je me sens bien, moi, tu vois, pour inviter les athlètes, comme je te disais tout à l'heure. Tu m'as dit que tu connaissais pas, on est à Station F, du coup. Et puis je suis très heureux d'être là parce que je crois que c'est la première fois que j'ai deux frères et sœurs interposés à distance. J'avais passé un super moment, je suis quand même obligé de le dire, avec Astrid. J'avais beaucoup apprécié l'échange qu'on avait eu. Et du coup, en préparant cette interview, j'ai retrouvé pas mal de choses et je me suis dit bon, on va se régaler aujourd'hui.
Bah, très content que tu aies eu ma sœur en premier, ça veut dire que c'est elle désormais, tu vois, la championne. Et en tout cas, c'est la dernière médaillée de la famille Guyard et je suis très content que ce soit le cas.
Et on espère pas la dernière, pourquoi pas.
Ouais. elle est dans sa vie d'après là, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle est dans sa vie d'après. Mais toi, tes enfants, t'as envie de les pousser à l'escrime, peut-être ou.
Ah, j'ai déjà eu des appels du pied de ma fille pour me demander quand est-ce qu'elle pouvait essayer l'escrime. Elle fait déjà beaucoup de choses en parallèle de la danse, de la musique. Donc, on va essayer l'an prochain de lui faire essayer l'escrime. Elle l'a demandé, donc moi, j'ai surtout pas essayé de pousser ou de l'inciter. Et pourquoi pas, il faut qu'elle aille découvrir.
Ouais. Bah, je pense que ça fait partie du rôle des parents d'assouvir la curiosité des enfants et que s'ils demandent, il faut absolument les faire essayer, quoi.
Non, carrément. En plus, il y a des clubs partout dans Paris. Je suis dans le 11e, donc, on va s'y mettre, ouais, carrément l'an prochain.
Très cool. Je te l'ai dit, j'aime bien commencer effectivement les échanges un peu par l'enfance et savoir un petit peu qui t'étais quand t'étais plus jeune. Donc là, ça tombe bien, on parle de toi en tant que papa et la vision que t'as avec ta fille. Mais comment est-ce que t'es tombé dans l'escrime et quel est ton C'est quoi tes premiers souvenirs de sport?
Sincèrement, c'est vraiment par hasard. J'avais 5 ans et déjà bien agité. Donc, je crois une nécessité pour mes parents de me faire quelque chose qui me canalise. Et donc, dans un club omnisport au Vésiné, dans les Yvelines, découvert de différentes activités. Ouais. Et puis l'escrime qui m'a plu tout de suite, parce que tu tiens une arme, tu défies quelqu'un, enfin, tu t'habilles, il y a un cérémonial, il y a un arbitre, tu dois le saluer, et puis après c'est la guerre. donc ça, c'était cool. Et en parallèle, j'ai fait du tennis aussi en même temps, donc il y avait deux sports.
Ouais.
Et j'ai toujours eu l'escrime en fil rouge. Et puis après, quand t'es au collège, les copains ils font pas de l'escrime, hein, ils font du foot. Donc j'ai fait du foot aussi en parallèle pendant 6-7 ans. C'était sympa. J'avais mon sport co, mon histoire d'un côté, et puis mon sport indiv où là je commençais à me projeter un peu plus loin, quoi, déjà.
Ouais, parce que j'imagine que tu vas plus rapidement faire des compétitions départementales, régionales. Et qu'il y a un côté aussi un peu stimulant dans la progression.
Oui, effectivement, il y a une progression qui était plus nette.
Ouais.
Et surtout, je le faisais pas pour les mêmes raisons, je pense. Le foot, c'était vraiment pour être avec les potes.
Ouais.
On profitait pour faire 2-3 conneries. Alors, en gros, c'était ma bulle où mes parents rentraient pas. Dans l'escrime, ils rentraient un petit peu plus de fait parce qu'ils m'amenaient aux compétitions, ils allaient me chercher à l'entraînement, ils me conduisaient, ils me ramenaient. Donc ils étaient déjà plus présents dans la salle d'escrime sans pour autant connaître l'escrime. Ça, j'ai eu la chance de pas avoir de débrief de mes compètes, de pourquoi j'ai perdu mon match, tout ça. J'ai échappé à ça, tu vois, en tant qu'enfant qui commence à faire du sport et de la compète.
Moi j'ai connu ça. Moi, par contre, j'ai eu un père qui a fait beaucoup de tennis et du coup, je sortais du cours et j'avais le débrief. Et,
ouais.
Et c'est vrai que c'est difficile. Enfin. Je dis ça après beaucoup d'athlètes ont connu ça, mais c'est difficile d'avoir un papa et un coach d'avoir cette même casquette ces deux casquettes sur la même personne, c'est parfois compliqué.
Ouais.
Mais je peux comprendre très bien comment tu dis ça et c'est vrai que dans les sports co, il y a un côté où le fait que tu sois avec les copains, ça permet aussi de préserver un peu la bulle du sport. Donc je le vois bien. Et t'as mentionné un peu le cérémonial, le casque, la tenue, le duel. Ça t'a tout de suite plu, ça, ce côté un peu, vraiment, enfin le un peu la mise en scène et le côté protocolaire de l'escrime, parce que tu vois justement comme tu vois, pour un enfant un peu agité comme tu l'as dit, ça peut être tout l'inverse, tu vois.
Ouais, mais du coup il y a un cadre en fait, à respecter pour pouvoir combattre en fait. Donc si tu respectes pas ce cadre avant, t'as pas le droit de combattre.
Ouais.
Donc en fait, vu que t'as vraiment envie de tirer, on dit tirer, hein, et t'as envie d'être sur la piste et d'y aller, en fait tu te plies aux règles, hein, et puis donc c'est assez naturel. Donc, je pense que le plus dur quand t'es gamin à l'escrime, c'est que, en tout cas au fleuret, qui est une arme de convention où t'as un arbitre qui détermine qui marque le point, c'est pas forcément le premier qui touche qui marque le point au fleuret. Je pense que c'est vraiment le plus dur dans l'apprentissage, c'est la gestion de l'arbitrage, du jugement.
Ouais.
Et donc, la gestion de l'injustice, parce que parfois un arbitre ça se trompe.
Mais même surtout, enfin, au niveau amateur, ça doit arriver encore plus.
D'autant plus au niveau amateur. Plus. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un peu troublant, tu vois, parce que en regardant, alors si jamais les auditeurs ne font plus la différence entre le fleuret, le sabre et l'épée, on a fait un super épisode avec Manon Brunet que je vous encourage à aller écouter parce qu'on avait été vraiment complet sur le sujet, elle avait vraiment super bien détaillé les règles. Donc j'ai pas envie de t'embêter avec ça parce que j'imagine que c'est un truc qu'on te demande tout le temps. Mais c'est vrai que c'est hyper troublant pour le téléspectateur. De voir plein d'images où on voit les deux tireurs en fait se sauter l'un sur l'autre, les deux lumières qui s'allument, les deux exploser de joie, et en fait il y a une ou deux secondes de latence avant que tu comprennes qui a vraiment
gagné le point, du coup quoi. C'est très valable dans l'arme de Manon Brunet qui est le sabre, qui est une arme de convention aussi, et au fleuret où du coup au-delà d'avoir touché en surface valable, il faut avoir la priorité. Ouais. et donc toi t'estimes que t'as raison et tu veux le montrer, et donc t'essayes aussi vis-à-vis de l'arbitre quelque part de lui montrer que t'as bien exécuté ton action. Okay. T'as la priorité, t'as le droit d'avoir le point.
Donc c'est une part de bluff quoi, une part aussi de bluff.
C'est quand même très instinctif au départ, on reste sur un combat, donc quand tu portes la touche t'as besoin de te libérer, et puis il y a aussi cette part d'être convaincant.
Il faut savoir convaincre l'arbitre.
Ouais.
Ok.
Et puis prendre un peu l'ascendant sur son adversaire aussi.
Ouais. Ok.
Le cri qui va bien, respectueux, hein, mais qui montre que voilà, à ce moment-là t'es au-dessus de lui.
Ouais. Mais ça a pas un effet inverse, tu vois, justement, de penser qu'on a gagné un point, de mettre l'énergie comme si on avait gagné un point, et finalement de regarder l'arbitre et de voir qu'il l'a attribué à l'autre, tu vois, ça peut pas...
Disons que...
Ça peut être hyper déceptif.
Faut rester crédible, surtout. Je pense que si tu cries sur tous les points, ce que t'as tendance à faire quand t'es jeune, au bout d'un moment, t'es plus crédible, donc il faut aussi le faire au bon moment, et puis crier, ça fatigue. Hein. Ouais. Donc aussi, avec l'expérience, tu le fais dans les moments où c'est important. Et effectivement, t'as raison d'un point de vue émotionnel, et c'est valable dans plein d'autres sports. Je pense que le cri en escrime, il nous sert aussi à évacuer toute cette pression, cette tension, et heureusement qu'on a le droit à un peu de crier, parce que ce serait horrible sinon. Et en même temps, il faut pas non plus tomber dans des excès émotionnels qui font qu'à un moment tu peux plus revenir à la touche d'après, parce qu'en fait le principe de l'escrime c'est ça, c'est que t'as des matchs en 15 touches, il se passe une touche et tu dois tout de suite te remobiliser sur la touche d'après, donc tout de suite essayer de prendre une décision, être créatif, comment j'amène ma touche, sur quelle cible, tactiquement est-ce que je vais plutôt vers l'avant, est-ce que je lui mets la pression, je fais semblant d'attaquer pour lui faire déclencher une action et ensuite le contrer, donc ça c'est de la seconde intention. Ouais. Je rentre pas dans tous les détails, mais en gros ce que je veux dire c'est que t'es obligé tout de suite de prendre une décision pour sur la touche d'après proposer quelque chose encore de nouveau et qui va surprendre.
Ok. Ouais, tu dois très vite passer au point d'après, quoi.
Ouais.
Point après point. Et...
Donc, ne pas rester sur ton échec si t'as mal exécuté ton action. Ne pas rester sur une mauvaise décision de l'arbitre, entre guillemets mauvaise. C'est-à-dire que toi, tu ne la comprends pas ou tu penses qu'il a pas bien vu ce que t'avais fait. Et voilà. Et c'est aussi ça l'enjeu en escrime, celui qui gère le mieux ses émotions et...
Ouais.
Et qui va réussir à être quand on dit dans la touche d'après, en fait c'est dans l'instant, c'est-à-dire que t'es pas resté sur ta touche d'avant.
Ouais, t'oublies les pensées parasites que tu peux avoir et tu te remobilises tout de suite. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup au tennis, tu vois dans le type de sport de duel et d'affrontement que tu peux avoir. Et tu vois cette capacité à se concentrer, cette capacité à être vraiment dans l'instant présent, c'est quelque chose que t'avais jeune, tu vois. Je sais que tu vois par exemple ça peut arriver beaucoup plus tard chez certaines personnes, tu vois, parce que on a des chemins de vie un peu différents. Des fois quand t'es ado, tu vois, tu peux être très très expressif, très émotionnel, et puis en grandissant tu peux te canaliser un peu plus. Typiquement, tu vois, moi sur le côté de l'instant présent, enfin tu vois, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à canaliser, et là aujourd'hui sur lequel j'essaye vraiment de progresser, j'en fais une force, tu vois. Mais toi, est-ce que très jeune tu sentais que t'étais avec le recul, est-ce que tu sentais que t'étais doué pour ça?
C'est hyper dur d'être dans l'instant présent mais au-delà du sport, dans ta vie de tous les jours. Je dois te donner un exemple, t'es en réunion, t'es en meeting, t'es en présentation, t'es perturbé par des pensées parasites, par les conséquences de ton meeting, par plein de choses en fait. Donc c'est hyper dur d'être à exactement à ce que tu fais et de sentir ce qui se passe, comment les gens qui sont en face te perçoivent, comment ils... Ben, en sport c'est pareil en fait, et t'es forcément induit par les conséquences de ton match, de cette victoire, cette défaite. C'est hyper dur d'être dans l'instant présent. Et le truc que j'ai remarqué, c'est quand t'es dans le jeu en fait. Quand t'es vraiment dans ton sport en train de jouer, soit tu joues seul parce que t'es sur un sport où à un moment t'es seul, soit tu joues dans un sport de combat contre l'autre, avec l'autre même. Ouais. Parce que pour marquer, en fait, pour gagner un match, t'es obligé de prendre des touches. Bien Donc sûr. Il faut accepter d'en prendre, mais pour pouvoir en mettre plus, tu joues aussi avec l'arbitre. On en a parlé un petit peu avant sur ce côté influence, séduction, voilà. Et donc dès que t'es dans cette notion de jeu, c'est là où t'es le plus connecté à ce que t'es en train de faire. Et le meilleur exemple pour ça, c'est les enfants. Les enfants, ils sont pas ce qu'ils faisaient avant ou ce qu'ils vont faire après. D'ailleurs, quand tu leur dis, il faut t'habiller, non, il est toujours en train de jouer, il faut lui répéter 10 fois, il ne le fera pas, il faut l'habiller. Non, mais voilà. Et c'est le meilleur exemple pour moi parce qu'ils sont dans le jeu et c'est ce côté-là, en fait, qui est dur à retrouver quand t'es adulte et quand tu prends de l'expérience, c'est de revenir à des choses très simples et basiques qui est de jouer quand t'es sur une piste.
Ouais, c'est vrai. C'est marrant que tu rapproches ça aux enfants, ouais, parce que justement, moi, j'essaie de t'en éloigner, tu vois, et de te dire voilà comment ça se travaille, tu vois, en tant qu'adulte. Et est-ce que quand t'es ado aussi, t'as conscience de ça, tu vois, que c'est ça la grosse force de, enfin, comment dire.
C'est avec du recul, moi, que je te dis ça là.
Ouais.
J'en avais pas conscience.
Ouais.
Je me suis retrouvé dans des états de flow. On appelle ça comme ça en escrime, mais c'est dans la zone. Enfin, il y a plusieurs expressions pour dire ça.
Bien sûr. Ouais.
Si vous avez regardé les jeux en escrime, c'est Romain Cannon à l'épée qui a vraiment été donc médaille d'or individuelle à l'épée, qui a vraiment été dans cet état-là ce jour-là. Et ça arrive rarement dans une carrière. C'est un truc qu'on ressent peut-être 2, 3 fois, 4 fois. Et quand on l'a, déjà, on ne s'en aperçoit pas. Et c'est bon signe. Ça veut dire que si tu t'en aperçois, c'est que c'est déjà trop tard. Ouais. T'es déjà sorti de toi. et voilà. Et c'est un état où t'es hyper créatif, hyper lucide. Tu ressens tout. Tes sensations, elles sont poussées à l'extrême. Et t'as une influence énorme, une posture. Tu dégages énormément de choses. Ça fait mal à l'adversaire parce qu'il voit que t'es vraiment au-dessus, que tu maîtrises. L'arbitre, sur les touches litigieuses, il va te les donner parce que tu dégages tout ça. Enfin, tu vois, c'est, et ça, c'est, voilà, quand ça t'arrive au jeu, bah, ouais, faut, et du coup, l'enjeu sur un truc comme ça, c'est qu'aussi ton entourage te préserve à ce moment-là, tu vois. Ça se voit tout de suite, quelqu'un qui est dans cet état-là, et donc il faut absolument le préserver et réussir à le laisser dans sa bulle comme ça pour qu'il continue son parcours, sa compète pour aller au bout. Et ça donne un sport qui est magique à ce moment-là, parce qu'il y a des, tu réinventes quasiment ton sport. Il paraît tellement simple à comprendre. Moi, quand j'ai vu Romain Cannon tirer, j'étais là puisque je travaillais pour les médias, pour France Télévisions à ce moment-là. J'ai eu l'impression que l'escrime, c'était simple. Une simplicité absolue. Et c'est magique. Et c'est parce qu'il l'exécutait parfaitement au bon moment, dans le bon timing et avec l'autre tout le temps. Il faisait pas les choses tout seul. Il jouait.
Ouais. Ouais, il était, c'est vrai qu'il était là, quoi. Et les images étaient assez impressionnantes. On avait l'impression que tout lui réussissait, qu'il marchait un peu sur l'eau, ouais. Et toi, tu dirais que toi aussi, sur ta victoire en 2004, t'étais dans le flow cette journée-là?
Oui.
Ouais.
Je pense. En revanche, ça m'a paru très dur. J'ai déjà été en état de flow où du coup ça me paraissait simple.
Ok.
Je gagne une Coupe du Monde à Paris qui s'appelait le Challenge International de Paris. Et en fait ça a été simple sur les scores, tout ça c'était simple. J'ai survolé. En revanche au jeu ça a été très très dur. Et au-delà de bien me sentir dans mon escrime physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement j'ai dû aller chercher beaucoup de ressources, notamment en demi-finale et en finale contre les Italiens, contre. Ouais. Cassara en demi-finale.
Tu pars de loin, je crois, que tu lui mets, quasiment 10 touches d'affilée.
Il y a 12-7 pour lui et il y a même 14-11 pour lui, sachant qu'on va en 15, donc vraiment, je suis dos au mur. Et, si, pour parler un peu du mental et de ce que j'ai déclenché à ce moment-là, c'est, j'ai eu, en fait, avant cette demi-finale, 6 heures de pause dans ma compète, où, du coup, j'ai décidé de rester sur la compète en salle dans une salle de kiné qu'on a improvisée. Et vraiment de rester dans ma bulle à ce moment-là. Et c'est vrai que le coach à l'époque me, il tournait autour de moi. Il avait vraiment envie d'aborder le schéma tactique, technique sur Cassara. Et en fait, je l'ai arrêté en lui disant, je sais, mais tout ce travail-là, on l'a fait. Les vidéos, je les connais. J'ai tiré 3-4 fois cette année contre lui. À chaque fois, j'ai pris des roustes. 15-5, 15-6. J'ai gagné une fois 15-14. Ouais. Et il s'est excusé à la fin du match pour me dire, t'as vu Brice, désolé, je suis blessé, désolé pour le match.
Ah, putain, okay, l'italien, sympa. Ouais. Stable.
Donc j'ai dit, non, je sais pas encore comment je vais le faire, mais voilà, je vais le faire. Et tout le travail, on l'a fait. Donc, je vais avoir besoin de ressentir sur le moment, les choses, et ça va être du combat, et je vais en vouloir beaucoup plus que lui, donc ça, je vais m'en sortir. Et puis j'ai pensé à des choses aussi que j'aimais bien à ce moment-là, avant mon combat. J'aime bien le surf, j'aime bien surfer. Donc j'ai pensé à, tu vois, cet Italien qui est en fait déjà il est grand, donc c'est une vague énorme, comme quand je suis dans l'eau et que tu vois une vague qui t'arrive dessus, qu'est-ce que tu fais, t'y vas pas, bon bah du coup tu la prends sur la gueule. Et du coup je me suis dit, mais c'est à toi d'être dans l'action, de pas la subir, d'y aller, de l'anticiper, de la surfer, et au final putain quel kiff, tu vas, bah j'ai repensé à ça pendant mon combat, hein.
Okay.
J'ai juste vu une énorme vague et je me suis dit c'est le, là, si tu bouges pas, elle va te déferler dessus, tu vois.
Et
donc ça paraît bête comme ça. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est une vérité absolue. Pendant mon combat, je m'accroche à ça et je me dis, c'est une évidence. Tu l'as déjà vécu dans l'eau, tu sais, c'est pareil. Là.
Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est une analogie qui est de plus en plus fréquente, tu vois, maintenant en préparation mentale, tu vois, de se rattacher à un événement que tu connais et d'en fait de transformer le moment présent et de le vivre en fait en étant un peu ailleurs, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression que t'as beaucoup de maturité par rapport à la préparation mentale et tout, alors que peut-être c'était un peu moins,
c'était pas développé, j'en faisais pas,
c'était moins développé à l'époque.
J'ai utilisé ça, je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça.
Ouais, j'avais pas les spécialement accompagné
non, j'avais pas les outils, j'avais pas les techniques. Je pense que c'est très instinctif ce que j'ai fait.
Ouais,
à ce moment-là.
Ok. Ah, c'est surprenant, ouais. C'est surprenant. Non, mais surtout que ça a merveilleusement bien marché pour toi. Et qu'est-ce qui te fait dire après coup qu'à ce moment-là t'es dans le flow? C'est quoi, c'est le lendemain?
C'est avec le recul.
C'est le lendemain.
Ouais.
C'est quand tu rejoues. C'est quand tu te remets à tirer dans un moment où ça se passe pas bien et tu penses à plein de trucs.
C'est avec le recul. Déjà, je sais que le lendemain, je me souvenais, mais même encore, je me souviens quasiment de toutes mes touches. Donc j'étais très lucide, je me souviens de mes touches, de mes scores. Je me souviens des cris dans la salle, où sont positionnés mes entraîneurs. En fait, j'ai encore énormément de détails, donc ça veut dire que j'ai ressenti beaucoup de choses ce jour-là. Et beaucoup d'émotions, mais beaucoup de sensations. Et voilà, c'est ce qui me fait dire ça. Après, état de flow, mais combat mental permanent. Notamment en demi-finale et finale, ouais.
Okay.
Au final, c'était un autre sujet. C'était ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle de la baston face à Salvatore Sanzo, qui avait compris qu'en me provoquant, j'arrivais à sortir facilement d'un match.
Okay.
Donc, il avait cette capacité aussi à bien me provoquer, en français. en général, j'avais du coup plus envie de porter une touche avec ma garde, avec ma coquille, donc avec mon poing, qu'avec ma pointe en fait.
Ouais.
Il y a eu un geste pendant le combat à 5-1, je crois, pour lui, ou quelque chose comme ça, où en fait il m'a provoqué avec sa main non armée, il m'a fait un signe de la main en me disant viens m'attaquer, en gros viens, je crains rien. Et en fait, en voyant ce geste-là, je pense que sur une autre journée, je serais tombé dans le panneau et franchement, j'aurais pété un câble.
Ouais.
Et là, en fait, je me suis juste dit, ok, ce signal-là, tu l'attendais. D'habitude, il te parle, mais là, il te fait ce geste.
C'est un peu grossier, c'est un peu gros aussi.
Tombe pas dedans. Ouais. En revanche, on est en finale olympique. Il peut pas être champion olympique, pas avec un geste comme ça.
Ouais.
Impossible. Tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne le laisses pas être champion olympique. Voilà, ça a été ma motivation sur cette finale, en me disant c'est pas possible.
Ouais.
Et je me suis accroché à ça tout le long. Je gagne 15-13, mais tu vois, ça se joue à pas grand chose. Et physiquement, ça a été très dur.
Okay.
Donc voilà, tu vois, c'est ce côté aussi, t'es dans un combat, un duel, mais tu utilises aussi des signaux qui te permettent à un moment de te raccrocher à un truc aussi positif, de t'en sortir. Et,
Bon bah, tu fais bien de mentionner un peu ces deux combats, parce que je t'en ai parlé, mais je voulais t'amener sur un sujet qui me tient à cœur, qui est un peu l'esprit du duel, en tout cas de mettre un peu dans la peau du dueliste. Parce que je trouve que notamment dans l'escrime, tu vois, et c'est un peu, on le retrouve aussi dans le tennis, mais aussi dans certains autres sports, on le retrouve assez souvent, tu vois, c'est un peu cette espèce de double personnalité, tu vois, entre le gentleman, Brice, tu vois, que j'ai avec moi là tout de suite, super sympa, hyper hyper posé, qui parle bien, avec qui on pourrait aller boire un coup après et on se marrait, on parlerait pendant des heures.
On aurait pu faire ça en buvant une bière.
Mais ça sera pour une prochaine. et à côté, tu vois, le Brice, alors je sais pas s'il a un surnom, tu vois, mais cette deuxième personnalité qui doit gagner malgré tout, qui a envie de mettre un point dans la face de ce cher Salvatore, qui est prêt aussi à faire des coups un petit peu en douce, tu vois, pour casser un match, pour provoquer l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, c'est très 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 psychologique l'escrime, et que ça joue énormément la provoque, l'intox, et du coup j'aimerais aborder un petit peu tous ces sujets là avec toi. Et la première question que je voulais un peu te poser, c'est toi, c'est quoi avec le recul, le pire truc que t'as fait pour gagner un match, ou le truc le moins, tu vois, ou la pire provoque que t'as pu faire.
Je pense que j'étais pas trop dans la provoque.
Elle est dure, ma question.
Non, mais
si on demande ça à Salvatore, il dira jamais ce geste en finale, alors que tu vois.
Oui, il s'en souviendra. Si, il sait très bien que c'est ça qui l'a fait perdre. On en a reparlé des années après.
Après qu'il le dise en public, c'est plus compliqué. Mais, ouais.
Non, le pire. En tout cas, je pense que j'étais pas trop dans la provoque. En revanche, j'ai fait des coups, où pareil, à l'instinct, à rien de calculer. En 2000. J'étais junior, j'étais pas du tout programmé pour faire les Jeux de Sydney en 2000. Et en fait, fin de la saison junior, et on participe à une épreuve de Coupe du Monde à Paris, où les juniors, on doit faire les pré-qualifications, les pré-tournois. Et en fait, il se trouve que je suis qualifié pour les phases finales, contre les seniors, les meilleurs du monde, et je tire sur Sanzo. dès le deuxième tour, en tableau de 32, donc 16e de finale. Et 13 partout, j'en pouvais plus physiquement, c'était déjà un autre niveau, enfin tu vois, c'est vraiment là, j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai mon entraîneur de l'époque qui me dit: Brice, t'as perdu ta lentille. Et je me retourne, je fais non. Il fait si. Et je lui dis: ah ouais, j'ai compris. Et là, j'arrête le match et je dis: ah non, je peux pas, je vois plus rien. je suis désolé, j'ai perdu ma lentille et tout. Donc je sais plus, je dis ça dans un franglais de dingue, et j'enlève mon masque et tout, je fais semblant de chercher, et là Sanzo en face, il voit ça et il se dit mais c'est pas possible et tout, il est en train de récupérer, donc ça crée un scandale, et moi je suis là non, je vois plus. Et en fait, je récupère pendant ce temps-là, je casse le match, et puis à un moment, je fais semblant de la retrouver, de me mettre le doigt dans l'œil pour la remettre. Je remets mon masque et puis je mets les deux touches, 14-13, 15-13, et voilà. Et il était fou. Donc voilà, ça a commencé comme ça aussi. Je l'ai peut-être cherché.
En tout cas, ça te réussit plutôt bien, ouais. Mais ok. Et t'en as vu d'autres, peut-être d'autres escrimeurs. Ça, c'était peut-être pour toi des petits coups. Hein.
Ouais.
Ça paraît gentil, mais tu vois. On en a vu aussi, tu vois, des tennisman aller 3 ou 4 fois aux toilettes, ou aller 5 minutes aux toilettes à la fin d'un set, tu vois, ça arrive, tu vois. Mais t'en as vu d'autres. Je crois que c'était Enzo Lefort qui m'avait raconté un truc dans un couloir contre les Italiens ou les Russes qu'ils avaient fait en finale de championnat du monde aussi. Mais je crois qu'avec les Italiens, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Il y a pas mal de petits dossiers.
Il se passe jamais un match. Normalement, ça part toujours en vrille. Alors parfois c'est les entraîneurs qui sont expulsés. Mais non, ouais. Non, il y a un autre Italien qui est un super copain, Simone Vanni aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que sur la piste, il n'y a pas de règles. En revanche, le soir même, on pouvait boire un verre ensemble, discuter, refaire toute la soirée ensemble. Et aujourd'hui, je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Si je l'appelle, il m'accueillera en Italie et vice versa. Donc, une entente en dehors incroyable, une belle amitié, même si on se voit peut-être qu'une fois par an. Okay. En revanche, sur la piste, mais c'était horrible. C'était croche-patte, non, c'était horrible, parade avec la main non armée, enfin, c'était de l'intox auprès de l'arbitre, il y avait pas de règles, mais en fait, je lui en voulais pas, enfin, c'était notre règle, enfin, voilà, on savait que, à partir du moment où tu mettais le masque et t'étais sur la piste, peu importe la manière.
Ouais. Tu trouves pas que ce type d'amitié, ça fait grandir, je trouve, justement, pour construire un peu cet esprit de compétition, parce que justement, ça t'ouvre les yeux de te dire, mais ouah, il a osé faire ça. Du coup, allez, moi aussi, je vais le faire, quoi.
Ouais. Au début, j'ai eu du mal. En fait, je me disais, en fait, c'est un pauvre type, quoi. Et en fait, c'est un jeu.
Ouais.
À ce moment-là, justement, t'es en train de jouer, quoi. Donc, si tu te prends trop au sérieux et qu'en dehors, c'est pareil, ouais, là, tu deviens pas intéressant, mais non, c'est ça c'est ce que je trouve marrant, c'est ce côté, allez, je laisse cette seconde personnalité qui est en moi s'exprimer, mais juste sur la piste. Et voilà, en dehors, je redeviens quelqu'un d'ouvert, qui s'intéresse aux autres, qui est capable de faire la part des choses.
Ouais.
Donc ça c'était assez sympa à vivre. Okay. Et puis après, j'ai eu d'autres tireurs où justement t'étais plus dans le qui est-ce qui va mettre la plus belle touche?
Okay.
Tu vois, ce truc de...
Ouais, beaucoup plus élégant, on va dire.
Ouais, ouais, mais il m'a sorti une touche incroyable, mais qui me fait... Du coup, ce qui fait mal, on appelle ça des touches qui comptent double. En fait, ça marque qu'un point, mais dans la tête, c'est violent.
Ouais.
Donc voilà, t'as des rapports un peu différents, et ça, c'était agréable aussi.
Ok.
Ouais,
c'est une autre forme, effectivement, c'est une autre forme de duel. C'est une autre forme. Et, mais je savais pas, effectivement, que tu pouvais avoir aussi ce type de relation avec un adversaire. Je le vois dans le tennis, un peu, mais, et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que t'as la même chose en escrime, tu vois, c'est, dans le tennis, t'as un phénomène qui est assez étrange, c'est que plus tu joues face à quelqu'un de bon, mieux tu vas jouer toi. Mais si cette personne elle reste meilleure que toi, elle va quand même te battre, tu vois. Et du coup, t'as souvent l'impression, en fait, de jouer ton meilleur jeu, mais de perdre toujours à la fin, parce que, en fait, t'as joué face à quelqu'un de meilleur toi, qui t'a fait bien jouer, qui t'a fait frapper les bons coups, mais au final, qui restera toujours meilleur que toi. Il y a un peu ce même phénomène dans l'escrime, justement.
Non, tu l'as dans l'escrime, clairement. Ouais. Ça rehausse ton niveau de jeu. Après, je dirais pas que la porte est fermée. C'est-à-dire que en escrime, tu peux le battre. Enfin, il y a un moment, oui, tu vas bloquer peut-être une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à un moment, ça passera, quoi. C'est quand même, ça se joue vraiment à pas grand chose sur les touches, c'est souvent très serré. Donc non, clairement. Et quand tu joues contre quelqu'un sur le papier qui est moins fort, sans que ce soit péjoratif, mais techniquement, physiquement, moins rapide, et bah souvent, en fait, tu te déjoues, quoi. Et
tu te déjoues
et tu te prends la tête. Tu rates, tu t'énerves en plus. T'as ton ego là à ce moment-là qui tu vois qui ressort, qui prend trop le dessus. Et qui te flingue.
Ouais.
Alors que, en fait, il suffit juste de ralentir un petit peu, de s'adapter, de faire avec lui, d'être dans le jeu, et puis ça va passer. Mais, ça, c'est les matchs les plus durs, je trouve, en fait.
Ouais, effectivement, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ceux où tu dois juste gagner, en fait. Tu dois pas faire le show, pas faire de provoque, ça sert à rien, tu dois juste dérouler le plan, sans émotion, presque, tu vois.
Ouais. Mais par contre, le mec en face de toi, il est à fond. Et il est à fond, et sur chaque touche, il est en train de créer l'exploit.
Ouais.
Donc c'est là où, et c'est très dur à ce moment-là de maîtriser ton ego profond, quoi. Mmh. En fait, juste, c'est normal, en fait. Il est 150e au classement, il est en train de te mettre des points, bah ouais, à sa place, tu serais content.
Ouais. Non, mais c'est, je suis assez d'accord, et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, qu'on voit pas toujours derrière sa télé. Je serais curieux de savoir aussi comment tu... Est-ce que tu avais un process pour devenir le Brice méchant, tu vois, le Brice qui veut gagner, celui qui est compétiteur, parce que tu vois, il y a quelque chose qui m'étonne depuis tout à l'heure, là ça va faire une petite demi-heure qu'on discute, et il y a deux mots que tu mentionnes énormément et qui sont pourtant opposés, c'est la guerre et le jeu, tu vois. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il faut effectivement, si tu veux être dans le flow, il faut vraiment être dans le jeu, accepter que c'est un, accepter de perdre, accepter que tout te passe dessus et t'amuser et prendre le maximum de plaisir. Mais ça reste un sport de duel, ça reste un sport de combat, tu vois. Mais et
en fait, je pense que c'est pas incompatible. C'est juste que tu peux jouer et être agressif. Il faut pas tomber dans ce côté être méchant, le côté, tu vois. En tout cas, ça dépend de ta personnalité. Mais moi, je sais que ça n'aurait pas fonctionné. Donc, en fait, faut juste une intensité, une agressivité dans un sport de combat qui soit au bon niveau, tu vois. Pour avoir des coups incisifs, tu le sens de toute façon quand tu te fais toucher par un mec qui est là, qui est bien présent, tu sens l'impact des touches, tu te dis oh là là, putain, ça j'ai pris 10 kilos. Tu vois, c'est tous ces signaux là en fait et qui te montrent que le mec il est dans la bonne agressivité, il a fait une action simple, c'est parti vite, ça arrive fort, ça marque le point. C'est tous ces signaux là, tu vois, et c'est je pense que t'as pas besoin d'être méchant, t'as pas besoin d'être un salaud, t'as pas besoin de mal te comporter, t'as juste besoin de montrer que à ce moment-là t'es en train de dominer, quoi.
Mais est-ce que tu dirais du coup que ton envie de gagner, tu l'as traduit vraiment dans la technique et dans ta façon de tirer plus que dans ton comportement autre, tu vois
J'étais vraiment sur j'essaie toujours d'être dans la touche, d'être dans la, tu vois, qu'est-ce que j'amène, comment je varie, est-ce que j'ai fait des attaques, je vais l'amener, c'est à lui maintenant de prendre des risques, je le fais venir, j'ai du mal à je pense que si tu commences à être trop dans ce côté qu'est-ce que je peux mettre en place à côté pour paraître plus fort, en fait tu te perds un peu, quoi. Je crois que c'est vraiment être agressif dans l'action que t'es en train d'exécuter.
Ouais. Ok.
Sinon tu sors en fait du jeu de l'instant, t'es en train de parader, quoi, tu vois.
non, je vois ce que tu veux dire. Non mais c'est hyper intéressant, enfin la façon avec laquelle on peut canaliser effectivement cette énergie, cette colère, tu vois, que tu peux avoir quand t'as effectivement un adversaire qui peut te faire dégoupiller, et ce sur quoi il faut se reconcentrer, c'est effectivement le jeu et pas du tout rentrer dans son jeu. Mais là où à l'inverse, tu vois, ça peut être ce qui est marrant, c'est que il y en a certains qui arrivent qui jouent encore mieux justement quand ils sont dans cette provoque et qui eux sont dans ce personnage.
Ils sont dans leur point fort, ils sont dans leur credo, ils sont dans leur manière à eux de jouer.
Ouais.
À ce moment-là, je pense, tu vois aussi. Donc c'est juste que si tu rentres dans son point fort, c'est sûr que tu t'y perds.
Ouais. Et à l'inverse, comment est-ce que tu fais pour dans quel état d'esprit, en tout cas, tu te mets quand tu sais que tu vas rencontrer un ami? Toi, c'est arrivé plusieurs fois sur le circuit. Je crois qu'il y a eu un match, notamment avec Loïc, que tu connais très bien. Je crois que vous avez pas même partagé une chambre pendant longtemps ensemble. Je crois que tu as été aussi en 2008, t'es face à Erwan Lepechou, c'est ça? C'est en 2008.
Ouais, tout à fait.
Qui est aussi en équipe de France et qui a aussi un beau palmarès également, tu vois. Comment tu fais pour est-ce que toi t'avais un petit message particulier à te faire passer à toi-même quand t'avais ce type de combat? Ça doit être dur à gérer.
C'est très dur, surtout quand c'est vraiment face à un ami. Tu évoquais Loïc Atelli. Effectivement, au jeu d'Athènes en 2004, on s'est rencontrés au deuxième tour, et en fait on le savait d'avance parce que le tableau était fait. Et c'est bien qu'on l'ait su, parce que du coup on s'est pas entraîné ensemble dans les peut-être deux semaines ou semaines qui a précédé, pour éviter en fait d'être dans le faux, on aurait masqué notre jeu, ça nous aurait pas servi en fait. Donc on s'est plutôt dit on tire pas ensemble à l'entraînement pour éviter ça, de perdre du temps chacun. Il vaut mieux faire livrer des vrais matchs avec d'autres partenaires d'entraînement à côté. Donc on avait quand même essayé de mettre un cadre plutôt sain pour éviter de tomber dans ce genre de non-dit ou de trucs un peu pas clairs ou de zones grises. Mais c'est c'est très dur et ça joue souvent très vite sur les premières touches, sur la manière dont tu te comportes, ressentir l'agressivité qu'à l'autre. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, je suis dès le début, je suis plus agressif que lui, plus
et
incisif.
Tu le connais, tu le sais.
Je le connais, il le voit tout de suite. Mmh. Et voilà, ça va très très vite. Et si t'arrives pas tout de suite à reprendre le dessus, à te révolter et tout, bah en fait c'est machine à laver et ça va vite. Donc ça se joue parfois, ça se joue pas à grand chose. Hein. C'est sur les premiers, tu vois, les premiers signaux.
Ouais. Ok. Et tu le sens tout de suite, toi, à ce moment-là, ouais, quand t'es face à un copain et que t'es bien ou que t'es pas bien. Ouais, justement, c'est sur ces premières touches, toi, t'arrives tout de suite à te dire oula.
Moi, je sens que je fais des trucs simples, rapides, efficaces, et je sens qu'il me regarde. C'est ça que je vois.
Ouais.
Donc je me dis continue, lâche pas, pareil, continue, prêt, allez, on y va, allez, hop, et okay. Vite. Vite, 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 abrégeons ce supplice.
Ok.
Ouais, mais parce que même en gagnant, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, je lui ai déjà dit, ce que j'ai ressenti, c'est, putain, il est pas au niveau auquel il devrait être là, on n'est pas en train de livrer un combat, le combat qu'on devrait livrer.
C'est vrai, donc, tu te dis ça?
Bah oui. Et j'y pense. Et en même temps, j'évacue tout de suite. Je me dis, vas-y, t'en fous, continue. Ouais. Donc, c'est très paradoxal. C'est désagréable.
Ouais. Mm. Ouais, surtout qu'en plus, il me semble qu'en 2004, enfin, t'as vraiment l'objectif d'aller loin. Et tu dois écraser tout sur le passage, quoi. Donc,
c'est clair.
Il faut, il n'y a pas le choix pour, il n'y a pas de place pour les amitiés.
Ouais.
Ouais.
Sur la, là, à ce moment-là, sur la piste.
Ouais. Bon, c'est oublié le lendemain, les jours après, quand même, ou...
Ouais, après.
C'est pas trop dur d'en reparler après?
Bon, si, on en a reparlé, mais 10 ans, 15 ans après, ouais. Autour d'un bon verre de vin et à refaire le monde et à verser une petite larme.
Ok. Ah, t'en parles pas avant?
Pas si. Trop.
Ouais.
Mmh. T'en reparles quand il y a prescription.
Non, mais c'est curieux parce que tu vois, on peut. Enfin, il y a plein de manières de faire, je pense, tu vois. Mais on se doute pas, tu vois, quand on voit deux athlètes dont on sait qu'ils se connaissent et dont on sait qu'ils... Je sais que, tu vois, typiquement, il y a une célèbre demi-finale entre Arnaud Clément et Romain... et Sébastien Grosjean au tennis, à l'Open d'Australie, tu vois, où ils jouent l'un contre l'autre, ils sont super potes, ça se termine en 5-7. Ouais, ils ont presque jamais reparlé, tu vois.
Ouais.
Et d'autres qui vont reparler tout de suite après, tu vois.
Non,
donc,
mais...
c'est très différent.
Faut bien avoir en tête qu'en escrime, les jeux, c'est une fois tous les 4 ans, quoi.
Et, ouais.
Des athlètes qui font plusieurs fois les jeux, c'est pas courant, donc tu vois, c'est une occasion dans ta vie. Donc, ouais.
Ouais, c'est pas facile. Mm. C'est pas facile. Surtout un deuxième tour et tout, j'imagine que, ok. Eh bien, ouais, on est reparti, on avait eu une mini interlude.
T'as voulu casser le match.
Exactement, j'ai voulu casser le match, tiens, rompre le rythme et essayer de proposer autre chose. Changement de sujet.
Allez.
Changement de sujet, on fait une passe. Bon, on était effectivement sur les amitiés, la façon de gérer ça, en compète. On a beaucoup parlé d'escrime, on a beaucoup parlé de duel, on a beaucoup parlé de focus, de performance et tout. Mais moi, tu vois, je suis très attiré aussi par ta reconversion et aussi un petit peu le chemin. Même si tu vas prendre un petit peu de recul sur tout ton chemin, parce que j'ai l'impression que tu as eu, en tout cas, des performances sportives hyper jeunes. Ensuite, on l'a brièvement abordé tout à l'heure. Il y a eu un changement de règle qui t'a posé plus de soucis. Peut-être, ouais, juste avant de parler de ta reconversion, comment ça se fait que, tu vois, un changement de règle peut autant bloquer un tireur? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Tu me disais, ouais, je m'en suis jamais vraiment remis. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais régulièrement? Tu vois,
ouais.
Peut-être tu peux expliquer, peut-être pour les auditeurs qui sont un peu moins, on va dire, spécialistes,
ouais,
du fleuret.
Alors, c'est pas évident à expliquer, mais en gros, on a estimé que pour la lisibilité du grand public, des téléspectateurs, il y avait trop de lampes qui s'allumaient au fleuret. Donc on comprenait rien avec trop de lampes qui s'allument. Donc on a essayé en fait de faire en sorte qu'il y ait moins de lampes qui s'allument. Et pour ça, on a fait en sorte que pour porter une touche, il fallait que la tête de pointe reste appuyée en contact avec la surface valable plus longtemps. Donc tous les coups qui étaient les coups lancés dans le dos et qui arrivait très rapidement, tous ces coups allumaient pas ou très peu Donc ça a resserré les cibles plus dans l'axe.
Ok.
Et ensuite, ils ont aussi augmenté diminué le temps d'allumage entre deux lampes, entre moi mes actions et toi tes actions, ce qui fait que bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça, en fait, ça a beaucoup avantagé globalement les défenseurs, ouais. les contreurs, ceux qui prenaient moins de risques. Ouais. Et tous ceux qui prenaient du risque étaient plutôt offensifs, ce qui était mon cas. On se retrouvait finalement à rater. Ouais. Je touchais, mais je n'allumais plus la lampe, en fait.
Okay.
Du fait ouais. de ces changements de timing sur l'allumage.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et il se trouve que j'étais champion olympique et tu viens me changer des règles là où je suis le plus fort. Et j'ai juste et en plus, il y avait un mouvement des athlètes à ce moment-là pour justement dire non, stop, vous allez dénaturer notre discipline, notre sport, on change pas des règles comme ça, ça a un impact fort sur le jeu. Et oui, je trouve que le fleuret, il est devenu assez fade pendant, ça a bien mis 4-5 ans, tu vois.
Avant de se reconstruire.
Ouais.
Ouais.
Avant de revenir à un jeu. Maintenant, on en a en cours des coups lancés, on en a des jeux comme ça, mais ils sont exécutés différemment. Donc, il a fallu énormément s'adapter pour réussir à retrouver comment t'allumer la lampe de l'appareil.
Ok.
Et voilà, tu réapprends ça. Ça, tu switches pas comme ça, quoi.
Ouais.
Donc voilà, j'ai fait un blocage. Moi, ça me correspondait pas dans ma nature et ma philosophie de faire du fleuret. Et en plus de ça, j'ai fait un blocage mental. Et donc, pas prêt à changer, quoi.
Ok. Ouais.
Donc voilà, avec du recul, j'aurais dû être beaucoup bien moins engagé dans ce combat qui était perdu d'avance de revenir aux règles initiales et plutôt commencer à réapprendre des choses, à m'adapter. Voilà.
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que ouais, du coup, tu t'es plus dit à ce moment-là que tu pouvais rendre possible un retour en arrière, quoi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, on était plusieurs à le penser. Et pendant ce temps-là, t'en as d'autres qui bossaient. Et il y a un autre truc, c'est que ils l'ont expérimenté pendant un an chez les juniors. Donc en fait, t'as des juniors qui ont tiré comme ça pendant une année en compète et tout. Donc eux, en fait, ils ont eu quasiment une année d'avance quand ils sont passés seniors. Ils avaient déjà ce jeu-là, ils s'étaient déjà plus ou moins adaptés, quoi.
Ouais. Donc ça accélère encore plus le mouvement de changement, quoi. Mais je peux comprendre, mais tu vois, c'est dingue à quel point, tu vois, ce qui peut paraître, en tout cas en t'écoutant, être un petit changement, peut avoir de gros impacts, en fait, au haut niveau où tout joue à très peu, tu vois. En plus, c'est un changement technique qui est fait pour le public.
Pour la lisibilité de ton sport.
Pour la lisibilité du sport, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais, je comprends ces enjeux. Travaillant chez Paris 2024, je comprends l'enjeu de rendre des sports et des disciplines les plus lisibles, compréhensibles possibles pour le grand public.
Parce pour que, les athlètes, c'est...
Et
c'est
pour les athlètes, ça a des impacts. Donc voilà, mais bon, il faut pouvoir les absorber, les gérer. Et le sport reprend toujours le dessus, je trouve. Le jeu reprend le dessus, en fait. Aujourd'hui, au fleuret, il y a énormément de jeux. Chose qui, pendant 5 ans, s'était arrêtée.
Ouais.
Et moi, c'est ça qui m'a, en fait... Je pouvais pas en parler, mais j'avais plus envie de tirer, quoi. J'avais plus envie de faire de l'escrime. J'avais plus envie de faire de la compète. Et en même temps, j'étais le champion olympique en titre et je pouvais pas en parler, quoi. C'était compliqué.
Qu'est-ce qui fait que t'avais plus envie? C'était
déjà beaucoup d'entraînement, je pense aussi.
Ouais.
Et puis je me retrouvais pas dans ce sport, dans mon sport. Ça, il avait perdu son âme, son côté offensif. Il y a du mouvement, il y a des imprévus. C'était devenu trop conventionnel, trop toujours la même chose. Ça favorisait des jeux de contre, j'aimais pas. Enfin voilà, je m'y retrouvais pas, j'aimais plus.
Ouais.
Et je pouvais pas en parler, c'était compliqué. Même moi, hein, j'avais du mal, j'essayais de botter en touche ces pensées-là en me disant c'est juste un mauvais moment à en passer, ça va revenir. Mais je l'ai traîné longtemps.
Ouais.
Ouais.
Et tu penses que ça peut être efficace de faire un break à ce moment-là?
Ouais, j'aurais
dû. On voit de plus en plus des athlètes faire une pause pendant 6 mois, 1 an, et finalement réussir à revenir, tu vois. Et même chez les femmes, on voit de plus en plus de femmes qui vont accepter, enfin qui vont faire le choix d'entamer une grossesse, par exemple, tu vois. Donc même physiquement, il y a un gros changement, et pourtant elles arrivent à revenir au top niveau, donc ça se fait, quoi. Mais ça se faisait pas à l'époque.
Non. Mais j'aurais dû, avec plus d'expérience. Non, j'aurais dû le faire. Et en plus de ça, quand tu fais quelque chose qui est pas aligné avec tes envies, ton cerveau, bah tu te blesses. Et je me suis beaucoup blessé en plus sur cette période parce que j'étais pas aligné. Tu vois, entre ce que j'avais en moi et ce que je voulais faire et ce qu'on me demandait d'être faire, donc mon corps il m'envoyait des signaux et je me blessais régulièrement. Donc ouais.
Ok. Ouais. Non mais c'est curieux, tu vois, justement parce que c'est, j'ai l'impression que c'est un peu un tabou, tu vois, dans le sport, pas forcément le burn-out, tu vois, sans aller jusque là, mais tu vois
mais
l'effet de lassitude et le fait de dire,
non mais des
je suis claqué, j'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose.
Des burn-out dans le sport, il y en a plein. Alors ça peut paraître être un problème de riche comme ça quand tu t'en parles à l'extérieur des sportifs qui font un burn-out, mais en fait c'est juste, c'est pareil qu'en entreprise, c'est du surmenage. Ouais. Surmenage, la pression, les compètes, les sponsors qui t'attendent, manque de résultats, il faut retravailler plus, ce que tu fais c'est pas bien, enfin, tu vois, tout ce que tu fais c'est mal, c'est pas bien, ça va pas dans le bon sens, ça paye pas, tu pètes un câble, hein.
Il y en a plein,
je pense moi avoir été en situation de burn-out sans m'en rendre vraiment compte, et je pense que tout seul j'ai réussi à reprendre le dessus et tout, mais je pense que on sous-estime le nombre de burn-out dans le sport de haut niveau, c'est sûr. Après t'en as qui savent l'exprimer, hein. T'as des sports où qui te demandent énormément d'heures d'entraînement à refaire beaucoup la même chose. En natation t'en as plein que tu entendras dire j'avais plus envie de nager, quoi.
C'est vrai qu'en natation tu l'entends très souvent, quoi. Mais bon, tu peux comprendre, hein, t'es seul avec toi-même, c'est hyper physique, beaucoup d'entraînement, c'est clair, c'est pas le plus humain, quoi. Tu partages pas d'émotions, t'as l'impression, en tout cas
ça franchement il faut, et ça pour le coup il y a, si t'es pas bien entouré, c'est compliqué. Mais
tu penses que ça évolue dans le bon sens? Tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, on rentre quand même dans une nouvelle ère où c'est fini l'ère américaine et l'ère des Russes où les athlètes sont des machines. Et de plus en plus, on a quand même des athlètes de haut niveau qui s'expriment, qui savent pas faire paraître aussi leurs émotions.
Et surtout, je les trouve mieux entourés. En fait, ils s'entourent de plus de personnes et de plus d'outils pour être encore meilleurs. Donc, à un moment, quand, à mon époque, t'avais qu'un entraîneur, qui était maître d'armes, mais qui faisait ta prépa physique, ta séance de muscu et tout. C'est pas une critique. Ouais, c'était le modèle à l'époque et voilà. Donc, mais aujourd'hui, non.
Ouais.
T'as un maître d'armes, t'as un préparateur physique, t'as un préparateur mental, t'as une nutritionniste. Enfin bon, bref, tu vois. Tu t'entends. Donc t'as aussi des gens pour un moment te dire, oh là là, attends, ce que tu me dis là, ou j'ai l'impression que ça va. Enfin, tu vois, t'as plus d'alerte possible parce que tu côtoies des gens à un moment qui sont là pour ton bien, ta performance, et qui peuvent t'alerter.
Ouais.
Donc mais ça reste encore, je pense, un sujet.
Ok. Et combien il faut de temps pour te dire bon, là ça marche plus, je suis plus au top. Déjà, comment est-ce que tu arrives à t'accrocher, tu vois, pour continuer et d'essayer de continuer sur le haut niveau, parce que t'annonces ta retraite en 2012.
Ouais.
Donc tu vois, il se passe quand même du temps, tu vois. Et
Moi, franchement, parce que il m'a fallu une grosse blessure où du coup, j'ai eu une greffe de cartilage sur le genou gauche, donc j'ai fait un peu de fauteuil roulant, et en fait, à partir du moment où j'étais dans cette situation, je me suis dit, putain, t'as quand même de la chance de faire du sport de haut niveau. Toi, tu sais que tu vas pouvoir te relever, remarcher, refaire du sport. Et je me suis dit, t'as encore 2-3 ans à faire. J'avais Londres 2012 comme objectif final. Vas-y, donne-toi une chance, réapprends des choses, change ton jeu, ton style. Donc j'ai changé plein de choses, les poignées de mon fleuret. Enfin, j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses. J'ai réappris. Et du coup, j'ai eu l'impression d'apprendre. de réapprendre des trucs, de repartir à zéro et du coup de retrouver un peu de plaisir, de nouvelles sensations, de voir que finalement dans ce nouveau fleuret, j'avais des nouveaux coups qui pouvaient sortir, je pouvais être plus patient, je pouvais utiliser aussi un peu plus de vis en défensive, en contre. Et voilà, c'est d'être dans l'apprentissage en fait qui m'a relancé un peu, ça m'a permis de réintégrer le top 10 mondial. Je pouvais plus être dans les 3 premiers, je le sais. Mais c'est pas grave. J'ai accepté, j'étais quand même dans le top 10. Je pouvais faire des podiums en Coupe du Monde. Par équipe, j'étais utile ouais. à l'équipe, parce qu'on fait un sport aussi d'équipe. On a cette chance-là en escrime.
Ouais.
Donc voilà, j'ai trouvé un autre rôle, une autre place, un peu plus aussi dans la transmission, avec des jeunes qui montaient, bah, comme Enzo Lefort.
Ouais.
Enzo avec qui je suis encore en contact régulier dans l'escrime et même en dehors. Et voilà, et puis sur un style de jeu que j'adorais, et du coup, et puis un potentiel à être champion olympique, et je suis content, parce qu'il l'a fait par équipe à Tokyo, donc voilà, j'étais plus dans ce rôle-là.
Ouais, ok. Et est-ce que, je serais curieux, tu vois, justement, parce que ça se sent beaucoup, tu vois, en discutant avec Enzo, mais aussi avec d'autres, tu vois, que vous êtes quelques-uns à avoir pris avec beaucoup d'intérêt, cette transmission. De l'équipe de France, parce que vous avez connu les très belles heures de l'escrime française, qui a eu un petit creux après, et ça, enfin, avec tes yeux un petit peu, en plus, comme tu vois, comme tu t'es au plus près des athlètes et que tu les vois aussi pendant les compétitions, notamment pendant les jeux, qu'est-ce qui fait que là, tu vois, on a été aussi performant pendant à Tokyo? Est-ce que tu vois, c'est même, je sais pas, l'escrime français qui s'est au global qui s'est remis en question?
Je pense que le contexte Covid a fait que on est une nation où on a quand même du volume. On a dans nos différents groupes, on a de l'opposition, et donc on a su s'entraîner. Continue à s'entraîner en groupe, là où tu peux avoir des tireurs très forts, mais qui sont relativement isolés dans leur pays et qui ont besoin de voyager, d'aller faire des camps d'entraînement avec d'autres nationalités. Et du coup, nous, on arrivait à avoir ce volume d'entraînement suffisant aussi pour maintenir un niveau physique, technique, etc. Okay. Donc ça a été notre force, tu vois, ce côté. On est une nation de l'escrime avec du volume, avec un nombre de licenciés qui fait que... Enfin voilà, tu vois, je pense que ça a été un avantage.
Ah, j'avais pas du tout vu comme ça, avec les grandes nations d'un sport étaient avantagées. Ok, donc ça, c'était une chose. Et ouais, tu il s'est passé un truc, tu vois, sur cette génération là il y a quand même pas mal de plusieurs très très bons résultats. Je sais pas, toi tu le vois comment?
Ça dépend des armes. T'as des armes où tu sais que t'as de la relève, ça pousse. Pas inquiet, tu sais qu'en 2024 ça, il y aura encore des médailles, et d'autres armes où il va y avoir un gap à combler et il peut y avoir un petit vide. Mais c'est le cas aujourd'hui, j'ai pas trop envie de pointer des armes, mais tu vois, au sabre homme, il y a un passage à vide chez nous en escrime. Il y avait qu'un représentant à Tokyo, ils s'étaient pas qualifiés par équipe. Tu vois, il y a des armes où il va falloir cravacher. Deux ans et demi pour aller chercher une médaille en 2024. On sait que... Et puis, il y a d'autres armes où l'objectif, c'est pas une médaille, c'est deux, voire... Voire trois, quoi. Tu vois.
Bien sûr.
Donc... Non, écoute, je vais suivre avec attention. Puis en plus, en 2024, ce sera au Grand Palais, tu vois. C'est chez nous, l'escrime, le Grand Palais, c'est 2010, il y avait eu les championnats du monde, donc ça va être une belle compétition au cœur de Paris, quoi.
Ouais, franchement, le cadre va être dingue, quoi. Ça va, je pense qu'il y aura, plus ça résonne, je pense que ça va être une ambiance un peu particulière.
Ouais, puis c'est top d'avoir 9000 personnes de rassemblées pour suivre de l'escrime au Grand Palais sous la verrière, et non, ça va être une belle fête, un beau spectacle, une belle compète. Enfin, ça, le champion olympique à Paris en 2024, ça va être quelque chose. C'est aussi des images dont tu te souviendras, qui traverseront le temps. Parce que tu sentiras qu'à ce moment-là, bah oui, bien sûr, c'était à Paris, c'était au Grand Palais, quoi. C'est pas dans n'importe quelle salle.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, ben c'est clair. Bon, en tout cas, on fait bien passer le message. Hein. Si vous nous écoutez, allez voir l'escrime à Paris en 2024. Il faut absolument le faire. Il y a d'autres tournois en France. Hein. Non, il y a un tournoi aussi à Coubertin.
Ouais, au Fleuret, mi-janvier.
Mi-janvier, ouais.
La Challenge internationale de Paris. Bah là, c'est pile poil mi-janvier, 15 et 16 janvier à Coubertin. Et un peu plus tard dans la saison à Coubertin, il y a une Coupe du Monde à l'épée en mai, mais j'ai pas la date exacte. Et voilà, il y a d'autres Coupes du Monde. Tu parlais de Manon Brunet, ça c'est passé, c'était en novembre à Orléans, au Zénith d'Orléans. Voilà.
Ouais, ouais. Allez voir de l'escrime, franchement c'est chouette, ça vaut le coup. Et je trouve qu'il y a une belle ambiance, quoi. Tu vois, c'est particulier.
Et surtout, si vous venez voir et qu'en tout cas je suis là, n'hésitez pas à m'interpeller. ce sera un plaisir qu'on se mette au bord de la piste et que je vous décrypte deux trois trucs avec grand plaisir.
Ah ben là, tu me prends au mot. Hein. Du coup, tu me prends au mot avec grand plaisir. Peut-être pour terminer, tu vois, on a parlé de beaucoup de choses. On parle un peu de 2024. Je voulais savoir un petit peu comment est-ce que t'étais tombé toi dans cette aventure, parce que du coup, dans ta reconversion, tu t'occupes justement de l'engagement des athlètes pour ce beau projet qui est Paris 2024. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais planifié un peu déjà ta reconversion, et comment est-ce que tu tombes un petit peu dedans et sur cette institution?
Bah, moi, je viens d'un grand groupe qui s'appelle SNCF, où j'ai été formé là-bas et où ils m'ont accompagné pendant toute ma carrière aussi d'athlète, de sportif. Et c'est vrai qu'en 2012, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que vraiment je me vois encore chez SNCF? Et en fait, oui, j'ai cherché du boulot, mais j'en ai trouvé au sein de SNCF, en filiale, sur le web, sur un site que tu utilises régulièrement, qui s'appelle Oui SNCF, et où j'ai appris plein de trucs.
Je suis un mauvais élève, je suis biberonné à la startup.
Ah, t'es capitaine train.
du coup, j'ai fait beaucoup de capitaine train, mais je t'avoue que il y a eu beaucoup de progrès en tout cas côté Oui SNCF, et c'est beaucoup mieux maintenant. Ouais.
J'ai appris beaucoup de choses parce que voilà, c'était sur le web, ça va très vite. Dès que tu fais quelque chose, c'est un impact direct sur tes ventes. On a tenté de lancer des beaux projets en lien avec l'événementiel, la billetterie événementielle couplée à du train. Comme les startups, hein, tu lances des trucs et puis ça marche pas, mais t'apprends des trucs. On a monté un accélérateur de startup aussi, donc c'est pour ça que je suis pas insensible à venir ici à Station F. Donc appris plein de trucs, mais tout en me disant à un moment, j'espère que tout ce que j'apprends, je pourrais m'en servir à un moment dans le sport. Et il y avait ce début d'études d'opportunité pour les Jeux de 2024, puis cette candidature. Donc moi, j'ai toujours été proche des équipes en tant qu'un peu athlète, ambassadeur, prêt à défendre le projet, à s'impliquer sur le terrain, dans les écoles, enfin. Et puis voilà, et puis j'ai fait la bascule il y a 3 ans maintenant, et en me disant allez, c'est parti, je vais faire un autre métier, mais ça vaut le coup. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux, donc c'est une fois dans une vie. Et en me disant, au-delà d'organiser une compétition qui va être unique, on parlait de l'escrime au Grand Palais, mais c'est aussi le concept, hein, de déplacer le sport de son gymnase ou de ses enceintes traditionnelles pour les mettre sur des sites iconiques, c'est de se dire comment on fait en sorte que la France soit une nation plus sportive, ou en tout cas que la place du sport, elle est une autre dimension chez nous, et pas spécialement le sport de haut niveau. C'est pas que ça. C'est aussi cette envie de montrer que le sport, c'est important dès le plus jeune âge à l'école, que ça permet d'être en meilleure santé, que ça permet socialement de créer des liens, d'apprendre plein de choses, que ça permet le sport d'avoir aussi un changer le regard sur le handicap, parce que quand on se parle de sport, on se parle de sport olympique et paralympique. Et c'est un peu toute cette vision, toute cette ambition où je me suis dit, putain, c'est utile.
Ouais.
Donc, essayer de contribuer à un projet utile, pas que pour les 10 500 athlètes olympiques et 4 500 paralympiques, mais aussi pour, je pense que pour beaucoup de Français.
Ouais. Il faut, ouais. Comment ça se fait? Enfin, comment tout ça se produit, si on vient de voir? C'est toi qui vois le projet, qui te dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des postes qui peuvent m'intéresser?
C'est un peu les deux. J'ai toujours été très proche des équipes, donc toujours toujours présent. Et puis au moment où où tu te dis allez, si vous voulez de moi et si je passe les tests, bah j'en suis.
Ok. Ouais. Tu peux expliquer aujourd'hui un peu quel est ton job?
Ouais, carrément. J'ai deux. En fait,
il est hyper intéressant. En plus, j'ai deux mots et je trouve que c'est plutôt cool. Et t'as beaucoup de responsabilités. Hein. Attention.
Moi, en fait, j'ai une équipe où je travaille aussi, tu vois, avec Sandra Laura, qui est une ancienne athlète olympique en ski, en ski freestyle, qui est en fauteuil désormais, roulant. Donc, on est une équipe où on cherche à impliquer, engager les athlètes sur le projet. Quand je parle des athlètes, c'est pas que ceux qui participeront aux Jeux en 2024, mais c'est globalement tous les athlètes. Pour les impliquer sur le projet, sur nos différents temps forts, nos événements, nos programmes. Si je dois te donner des exemples, bientôt fin janvier, il y aura la semaine olympique et paralympique à l'école. Donc c'est faire en sorte aussi que les athlètes aillent dans les écoles, partagent les valeurs de l'olympisme et du paralympisme, fassent du sport avec les jeunes, enfin leur donne envie de se bouger, voilà, leur donne aussi l'envie de faire quelque chose, tout est permis, tout est possible. Donc il y a ce côté incarner un peu ce que je racontais avant, toutes ces valeurs, toute cette ambition. Et voilà, parce qu'on sait que c'est les athlètes qui vont au mieux l'incarner, le mieux en parler, le mieux le transmettre aussi au grand public, aux Français, transmettre cette envie de s'intéresser au sport. C'est hyper important pour nous et pour le projet, ça le rend plus fort.
Ouais.
Et donc ça, c'est plutôt voilà cette partie comme événementielle activation.
Donc est-ce que je peux le résumer ou le reformuler comme ça? Dis-moi si je me trompe. C'est comment est-ce que tu utilises les athlètes pour être encore plus des pour être des vrais ambassadeurs de ces jeux et les utiliser. Le mot est très 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 mal choisi, désolé, mais comment est-ce que tu pousses l'engagement des athlètes pour que justement ça soit cet événement soit une réussite, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est les impliquer, leur montrer que c'est aussi leur projet, qu'il est co-construit, qu'ils ont un rôle à jouer, une responsabilité.
Ouais. Aussi. Et pas juste venir faire du sport, quoi.
Ouais. Ouais. Donc c'est toute cette partie-là. Et puis après, moi j'ai un autre volet qui est très en lien avec ce qu'on va livrer pour les jeux et qui touche à ce qu'on appelle l'expérience des athlètes. Donc c'est nous assurer. Avec la commission des athlètes de Paris 2024, qui est présidée par Martin Fourcade, nous assurer que le niveau de service proposé aux athlètes pendant les Jeux soit au bon niveau dans le village olympique et paralympique, sur leur site d'entraînement, sur leur site de compétition, dans les transports. Voilà, donc c'est travailler avec toutes les directions qui vont livrer les Jeux pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et que l'expérience athlète est au top, parce que ça va être la compète de leur vie et que pour tout le monde, les spectateurs ou ceux derrière leurs écrans, ils voient une compète de dingue avec des athlètes qui sont au meilleur de leur forme et dans les meilleures conditions possibles pour s'exprimer.
Ok. J'étais pas du tout au courant de ce chantier-là. Pourquoi est-ce que c'est un chantier si important? Tu vois, je me rends pas compte. Parce que ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous, mais c'est aussi les fédérations qui font leur choix d'hôtels, de sites, de trucs, non? Il y a t'as le village olympique, ouais. Okay.
Ouais, mais tu sais, c'est comme partout, t'as un cahier des charges. Et puis il y a comment tu t'assures que ce que t'es en train de faire, ça répond bien à un usage, ça répond bien à un nouvel usage.
Ouais.
Parce qu'entre les jeux de Ciné 2000 que j'ai fait en tant qu'athlète et ceux qu'on fera en 2024, il y a plein d'usages qui ont changé. Le digital, déjà. Des trucs tout bêtes, comment tu t'assures que dans ta salle d'échauffement d'escrime, tu mets suffisamment de prises pour que les athlètes branchent leur téléphone portable et qu'ils se retrouvent pas sans batterie.
Pour que tout le monde puisse regarder les résultats en direct. Ok, ouais.
Non, mais voilà, anecdote, mais.
Non, mais c'est vrai, c'est concret, ouais.
C'est comment tu t'assures que sur tes sites de compétition, t'as bien des unités de récupération. Avant, j'en avais pas, moi, mais aujourd'hui, les bains froids, les vélos pour récupérer, dans plein de sports, c'est ultra nécessaire. Donc, comment tu t'assures d'en avoir aussi sur ton site de compétition? Comment tu t'assures d'en avoir au village? Enfin, voilà, c'est vraiment de quoi t'as besoin pour être performant. Et on voit si on arrive à le fournir et dans le bon budget.
Ok. Ouais, du coup, vous avez un budget, vous avez un cahier des charges, et pour et quand même une bonne dose de créativité pour pouvoir proposer des nouvelles choses et proposer des choses originales, quoi.
Il faut qu'on fasse mieux avec moins.
Ouais.
Si je dois la résumer.
Bah, tu sais, c'est toujours le même problème, hein. Il faut toujours viser haut. J'entends beaucoup, tu vois, dans les sphères médiatiques, enfin, la sphère des médias, plutôt. Beaucoup de comparaisons avec Londres, tu vois, et moi c'est un peu en train de me fatiguer. C'est vrai que c'était une belle réussite, tu vois, les Jeux de Londres. Je pense notamment, tu vois, sur la partie sur les Jeux paralympiques, tu vois, il y a eu aussi le reportage, le documentaire Rising Phoenix, tu vois, qui a beaucoup mis en avant et qui était d'ailleurs qui est absolument à voir, je pense, pour n'importe quel sportif fan de l'olympisme. Comment est-ce que vous gérez un peu cette comparaison permanente, parce que j'ai l'impression que c'est à la longue c'est un peu usant. Alors moi je me dis, si moi en tant que téléspectateur s'amuse ou en tant que je suis même pas journaliste, mais tu vois, en tant que personne qui crée un peu de contenu, s'amuse qu'il y ait en permanence cette comparaison. Est-ce que de votre côté, vous, ça se fait pas trop sentir?
Moi, je la ressens pas parce que on a un concept qui est différent. On utilise des sites iconiques. J'ai parlé du Grand Palais. Il y a le Grand Palais éphémère. Il y a les Invalides pour le tir à l'arc. Il y a les Jardins du Château de Versailles pour l'équitation. T'as le Champ de Mars pour le Cécy Foot côté paralympique. Enfin, tu vois, t'as un concept qui est hyper fort. On a des sports aussi, des nouveaux sports au programme avec le surf à Tahiti sur la vague de Teupo. On a le breaking aussi qu'on fait entrer et qui sera à la Concorde dans un stade urbain à la Concorde avec du basket 3-3, avec du skate et avec, je ne l'ai plus, mais en gros, voilà le concept. On a de l'escalade aussi. Il y a plein de nouvelles choses. Le concept est pas le même. On a une cérémonie d'ouverture olympique hors du stade.
Ouais.
Ça, on l'a annoncé, qui sera sur la Seine, en bateau, pour les athlètes. Ça commencera par les athlètes. Là où, en tant qu'athlète, j'étais un peu frustré toujours de pas voir le début de la cérémonie parce que j'étais en préparation avant de rentrer dans le stade. Là, ça commence par le défilé des athlètes en bateau sur la Seine pendant 6 km jusqu'à arriver au Trocadéro pour la deuxième partie sur ce théâtre éphémère et à ciel ouvert. Donc tu vois, non, il y a plein de choses.
Ouais, non, mais il y a plein de choses différentes. Enfin, je trouve qu'il y a une super bonne énergie et il y a aussi beaucoup de nouveautés. Effectivement, on sent que vous voulez faire quelque chose de nouveau, on sent qu'il y a une énergie commune pour être créatif, pour essayer de casser un peu les codes aussi, et ça donne envie, tu vois, et effectivement ça donne aussi, il y a un petit côté fierté nationale, quoi. On c'est la French Touch, tu vois, on a envie de casser un peu les codes et de te faire remarquer, quoi, tu vois, c'est un peu...
Ouais, et enfin, je sais pas si c'est, j'aime bien French Touch, et je trouve que c'est French Touch, pour aussi toucher tout le monde et tous les publics.
Ouais.
Et aujourd'hui, on a besoin de séduire, de toucher les jeunes, la jeunesse, qui puissent s'intéresser au sport. Enfin, voilà. Et donc, ouais, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on propose des nouvelles choses, ouais, quitte à ce que, ouais, ça casse un peu les codes et que dans l'histoire, qu'on sorte des sentiers battus. Effectivement, ouais.
Ouais. Bon, bah écoute, moi, je croise des doigts pour vous. Je vois déjà pas mal de choses. Hyper intéressante, je trouve, même, tu vois, l'accueil des athlètes qui a été fait cet été, je trouvais que c'était un super concept, tu vois, et que ça faisait justement une bonne passerelle à ce qu'on va vivre après, et il y a plein de bonnes choses qui arrivent, donc
Clairement, et je pense que j'en ai pas assez parlé, mais effectivement le ce qui plaît aux athlètes et ce qui va plaire, c'est qu'on va être aussi dans des jeux où il y a de la célébration, il y a une proximité entre les athlètes, le grand public. Et ça, on sait que ça nous manque, ça nous a manqué à Tokyo, et voilà. Mais c'est aussi ça ce qu'on veut proposer, c'est des jeux aussi pour tous, avec plus de public, de la gratuité sur la cérémonie d'ouverture olympique. C'est 600 000 personnes, donc c'est 10 fois plus que dans un stade traditionnel. Enfin voilà, c'est aussi tout ça, quoi. Et c'est plus de personnes qui en profitent et qui vivent les jeux aux côtés des athlètes.
Ok, trop cool. Et peut-être juste dernière question un peu sur le sujet, mais c'est peut-être ma curiosité personnelle. À quoi ça ressemble maintenant une journée, tu vois, pour toi? Est-ce que Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça te manque pas, tu vois, de un peu les salles, enfin, j'imagine toujours, mais à quoi ça ressemble une journée? C'est plus, tu vois, des réunions, beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de temps au téléphone, j'en sais rien, mais comment ça s'articule?
Ouais, c'est un peu, non, c'est un peu ça, tu l'as dit, quelques pauses café pour faire de l'informel et rattraper des situations. ouais, c'est bon, pas en ce moment, mais c'est du vélo le matin pour y aller et pour revenir, histoire d'avoir une petite activité physique quand même quotidienne. Ouais, c'est bon, c'est un peu de déplacement aussi pour aller sur les sites, les villes hôtes qui accueilleront des compétitions sportives. Ouais, ça n'arrête, c'est dense, mais voilà, ça vaut le coup. Il nous reste 2 ans et demi pour livrer ces jeux, et donc ça vaut le coup de se donner à fond et de se dépasser. C'est vrai que ça demande un engagement fort, mais c'est une chance aussi de pouvoir travailler pour Paris 2024 et d'avoir été retenu, et donc une forme de responsabilité aussi, je trouve. Donc voilà, et puis ouais, parfois tu pètes un câble et tu vas courir, tu sais que t'as besoin de faire du sport, t'as besoin d'évacuer le truc, mais ouais, on a une salle de sport aussi en interne, évidemment, et voilà, mais oui, bah il y a plus assez de sport, hein, à mon goût.
Ouais, mais j'imagine, mais tu sais, c'est toujours un truc qui est un peu enfin, souvent j'en parle justement avec d'autres athlètes, tu vois, mais effectivement passer du je m'entraîne 8-10 heures par jour à je suis assis devant un ordinateur 8-10 heures par jour, ça fait toujours un gros changement, et c'est souvent on en rigole aussi, mais c'est aussi, tu vois, cette capacité à aller trouver peut-être des métiers où il y a un peu plus d'action, où il y a un peu plus de aussi de
ouais,
un mouvement de déplacement,
et un sujet qui te passionne, un projet passionnant avec des gens qui vont t'apprendre des choses, qui vont t'emmener, qui te faire monter. C'est, je pense que c'est ça l'enjeu. De toute façon, t'auras toujours cette petite mort à traverser, ce manque, hein, physiologique aussi, de faire du sport régulièrement tous les jours. Mais si t'es sur un projet qui t'emmène, t'as l'impression d'être utile, d'apporter aussi quelque chose, bien qu'on peut ressentir ce déficit en termes d'études, d'expertise, mais il y a tellement de qualité, de valeurs humaines, de d'engagement de la part d'un athlète quand il bosse dans une boîte, il y a tellement de choses à apporter aux autres équipes que voilà, quand t'as aussi un manager à ce moment-là qui perçoit ça, qui comprend la complémentarité que t'as pour lui dans son équipe, dans le projet, bah là c'est génial, quoi.
Ouais. Mais c'est pas encore c'est en train de venir, je trouve, mais c'est pas encore très bien, enfin si bien perçu, tu vois, la compétence un peu, notamment sur les soft skills que peut avoir un athlète de haut niveau. Je trouve que de manière générale, et c'est aussi pour ça que je voulais t'amener un peu sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, de jeunes qui sont justement dans les programmes, justement dans les programmes de performance, et qui se pose pas toujours ces questions-là. Et toi, je sais que, enfin, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que ça t'a plutôt bien réussi sur ta reconversion, et que t'as l'air plutôt épanoui. Mais c'est pas toujours facile, quoi. C'est pas toujours évident, et c'est pour ça que bon, je voulais aussi le mettre en lumière, parce que je pense que ça peut aider et guider quelques jeunes, quoi.
Mais je pense aussi, ça marche dans les deux sens. La personne qui te recrute, le match, le bail, faut qu'il se fasse dans les deux sens, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et t'as le droit de dire à un moment, non, je le sens pas à ce moment-là, ou la personne qui va me manager, en fait, je pense que c'est hyper important. Et ton premier manager, quand tu peux vraiment franchir le pas, tu sais que tu vas bosser à 100%, faut que ce soit quelqu'un qui ait compris ce que c'est que le sport de haut niveau, ce que ça apporte, en quoi tu vas être complémentaire. Enfin, c'est hyper important de faire le bon choix.
Ok.
Je pense, hein.
Trop bien. Bon, l'heure tourne pas mal, et j'ai pas envie de te garder jusqu'au bout de la nuit quand même. Je sais que t'es papa, moi aussi, on a des trucs à faire après. J'ai 3 petites questions pour la fin. La première, c'est de savoir s'il y a un bouquin ou un film ou un documentaire que tu recommandes à tout le monde, parce que toi, il t'a appris énormément de choses.
Bah du coup, bouquin, mais où il y a eu un film, j'ai pas vu le film, mais le bouquin, Fred Caro, Le Discours.
D'accord, ok, je le connais pas.
Ah, pff, tellement
attends,
bien né.
Attends, c'est sur le roi d'Angleterre qui est... Non.
Non, c'est sur quelqu'un qui doit préparer un discours de mariage pour sa sœur.
Okay.
Et donc il a un repas de famille, mais lui, il ne pense qu'à une chose, c'est à ce que ça... son ex ou sa copine réponde au SMS qu'il lui a envoyé, donc il ne pense qu'à ça pendant ce dîner de famille, et tout en ayant l'épée de Damoclès, puisqu'il sait qu'il doit préparer un discours, et c'est non, c'est très drôle, c'est hyper bien écrit, on se marre, moi j'ai jamais autant ri okay. en lisant, et d'ailleurs ils en ont fait un film, j'ai pas vu le film, mais ouais, ça se lit tout seul, c'est ouais, c'est génial, on s'y retrouve trop.
Ok. Bon bah cool, un peu d'humour. Écoute, je connais pas du tout ce bouquin, donc
Fred Caro, il a fait de la BD aussi. Donc okay. En plus, tu vois, pour ceux qui aiment pas trop les bouquins, tu peux aller sur de la BD Zai 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 de Fred Caro. Il y a plein de trucs drôles de chez cet auteur.
Ok, trop cool. La deuxième question, c'est de savoir si t'as un mantra que tu te répètes régulièrement.
Un mantra, c'est une devise, c'est un.
Non, ouais, c'est une devise, ouais, exactement. Ça fait une devise ou bah après, je pense qu'il y a deux signes à la devise. Il y a la devise des gens qui le disent pour se motiver, et il y a aussi les pour corriger un défaut. Mais ouais, ça peut être une devise, un mantra ou une phrase que t'aimes bien te répéter régulièrement pour être plus épanoui ou plus performant.
Bah, elle me fait marrer, mais j'y pense souvent. Bah, c'est la phrase du film Dans les bronzés, oublie que t'as aucune chance, fonce.
Ouais.
Et en fait, pourquoi moi je me la dis, parce que en fait, si t'écoutes les gens, tu te dis non mais laisse tomber, ou c'est pas possible pour telle ou telle raison ou machin. Et si t'écoutes les gens, ça te plombe, tu fais plus rien, on fait plus rien. Avec le Covid, là, on fait plus rien.
Ouais.
On annule tout, machin. Donc jamais, moi, oublie que t'as aucune chance, fonce. Ouais, puis c'est marrant, ça passe. Hein. Mais il faut pas foncer tout seul, c'est ça le problème. Tu vois, faut réussir à embarquer d'autres gens pour foncer ensemble, sinon t'es mal. Mais okay. Ouais, je l'aime bien celle-là.
Ok. Mais écoute, bizarrement, ça m'étonne pas. J'avais noté là, tu vois, dans mes notes que beaucoup de gens te trouvaient audacieux et que t'aimais bien justement tenter, en tout cas dans ton escrime, on voit que t'aimes bien tenter des choses et que t'as été aussi quelqu'un de très novateur dans le style et t'as créé beaucoup de choses. Donc je suis pas du tout étonné.
J'aime bien utiliser les lignes. Tu vois, je trouve que à partir du moment où t'as une ligne, tu utilises l'épaisseur ou la largeur de la ligne pour pour avancer. Voilà.
Ok. Et très chouette. Et l'avant-dernière question, c'est de savoir si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même de 18 ans, tiens, justement, avant ce premier combat professionnel, enfin avec les élites, tu vois, avant face à ce cher Salvatore. Je sais pas si d'ailleurs c'est pas ton premier combat avec les seniors, mais presque. Tu vois, si tu pouvais te dire un truc à ce moment-là et te souffler quelque chose, qu'est-ce que tu te dirais?
Pas facile. Je me dirais. Je me dirais. Tout ce que tu vas faire, c'est bien. Tu vas penser à toi, tu vas tracer ta route, ton chemin, et voilà. Mais oublie pas tes proches, oublie pas ta sœur, parce qu'elle est là, elle a 2 ans de moins, et elle fait du haut niveau, et sois attentif, sois là pour elle, sois à l'écoute, intéresse-toi à elle. Et voilà, je l'ai fait, mais un peu tard.
Ok. Ok. Je savais pas du tout ça de toi, que tu serais dit ça. Mais tu penses que le sport de haut niveau encourage un peu pas une forme d'égoïsme,
si,
ou totalement. D'égocentrisme?
Ouais, si, ouais. Totalement.
Ok.
Donc c'est pour ça que c'est dur, c'est assez paradoxal, mais je pense qu'il y a des temps pour être aussi centré sur soi, et il y en a d'autres où au moment tu as le droit d'être ouvert et d'être plus curieux, t'intéresser, de poser des questions, et donc voilà, je vois, ouais, c'est une forme de regret, mais c'est. L'important, c'est d'avoir corrigé ou d'avoir évolué.
Dans le sens, ouais.
Et voilà, et c'est pour ça que j'étais vraiment très très fier de sa médaille d'argent à Tokyo par équipe pour finir sa carrière. Et c'était vraiment pour moi à la fois un soulagement, mais aussi une grande fierté de l'avoir s'épanouir comme ça dans son sport après 3 Jeux Olympiques, 3 participations, toute une carrière. Voilà, t'as des athlètes comme ça où t'aurais envie de leur donner cette médaille, tu vois.
Ouais.
Et je suis content de pas eu à lui donner, elle a été la chercher.
Ouais, mais c'est vrai que bravo à elle, elle dégage tellement quelque chose, tu vois. Moi, je l'ai eu quelques mois avant les Jeux, elle a un côté et je lui ai dit mais que je la trouvais brillante quoi, entre tous ses projets, son job, tout ce qu'elle arrive à faire, être multicasquette, elle a, moi elle m'a impressionné quoi, elle m'a vraiment enfin, tous les deux vous m'impressionnez beaucoup, donc je pense que
merci, c'est gentil.
Je pense que on peut féliciter des parents aussi. Et effectivement, faut passer du temps en famille. Et tu fais bien de mentionner, tu vois, qu'il faut penser à ses proches. J'ai lu, on le sait tous, tu vois, mais une étude récemment, tu vois, qui pose la question à des gens qui sont sur le point de mourir, qui ont eu plein de vies différentes, plein de salaires différents. Et en fait, quand on leur demande quelque chose qu'ils auraient à refaire, à 95%, ils disent je passerai plus de temps avec mes proches. Donc c'est un point commun, je pense qu'on vit pour ces relations là et qu'on a toujours envie de donner plus. Écoute, merci beaucoup Brice de t'être confié. J'ai la toute dernière question, c'est un peu c'est pas comme c'est presque un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Mais c'est de savoir quelle est la personne que tu me recommanderais d'aller interviewer ou d'aller justement d'aller à la rencontre pour échanger sur tous ces sujets-là, un petit peu de la performance, du mental. T'es pas obligé de me donner qu'un nom, si t'en as plusieurs, je prends.
Bah. Ouais, c'est pas évident comme question. Ouais, sur un profil de génération 2024, ouais, jeune.
Avec plaisir. Ouais.
22 ans, judo, Roman Dico. T'as okay. Peut-être déjà fait, non?
Écoute, non, mais non, même pas. Écoute, j'ai pas fait, tu sais, sur le format interview de 1h, 1h20, des fois quand t'es un peu jeune, c'est un peu difficile. Parce que t'as pas toujours beaucoup de choses à raconter, parce que c'est difficile aussi de prendre un petit peu du recul. Donc je le prends quand c'est les recommandations des autres, parce que je sais que si on me le recommande, c'est parce que peut-être que tu connais la personne en question et que du coup tu sais qu'elle se sentira hyper à l'aise. Puis aussi c'est un exercice médiatique qui est pas facile, tu vois, de parler, de se livrer pendant 1h20. Pour certains ça correspond pas, donc je l'ai pas fait, mais tu vois, si tu me recommandes, je la trouve je suis ta recommandation.
Je la trouve très inspirante. Mmh. Je la trouve très très nature, très vivante, avec un sacré mental, et elle est beaucoup avec les autres aussi, tu vois, et je trouve que c'est intéressant d'avoir un profil comme ça aussi qui va faire monter toute une génération. Enfin, tu sens qu'elle crée du lien même entre les autres sports, les autres athlètes. Elle est voilà, okay. Elle dégage quelque chose. Donc, j'ai beaucoup apprécié la rencontrer un peu plus là pendant les étoiles du sport à Tignes. Et, donc voilà, j'espère que tu auras l'occasion de la décrypter.
Ouais, ça marche. Bah écoute, avec grand plaisir. En plus, en parlant avec des étoiles du sport, j'ai eu un petit échange de messages aujourd'hui avec Sébastien Foucra, donc j'espère que ça pourra aussi se faire. Écoute, merci infiniment Brice, j'ai passé un super moment. On a pu parler de plein de sujets différents et je t'ai amené sur des terrains pas faciles, hein, sur le duel, la concentration, la reconversion, sur effectivement ce passage un petit peu à vide qu'on peut avoir dans n'importe quel type de carrière. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, en tout cas. C'était
avec grand plaisir, non, c'est top. À très vite, j'en ai encore pas mal à rattraper et à écouter.
Mais vas-y,
j'y retourne.
Ça roule. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.